Voilà.
Bonjour tout le monde. C'est moi. Donc je suis enseignant de linguistique française à l'Université de Bruxelles et à la vraie Université de Bruxelles. Je suis francophone, comme mon nom ne l'indique pas. Et donc j'enseigne tant la grammaire française langue première que la grammaire française langue 2 S. Étranger. Je suis grammairien. Oups. Donc voilà, c'est une maladie, ça ne se soigne pas. Pas vous, là, vous y avez peut-être échappé, moi pas en tout cas. J'ai un Covid dramatique à la maison. À côté de ça, j'ai une autre vie. J'ai plein d'autres vies, mais il y en a une autre qui est celle d'être soucieux des droits fondamentaux. J'ai été président de la Ligue des droits de l'homme, président de l'Association européenne des Ligues des droits de l'homme, vice-président et secrétaire général de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. C'est pas pour me vanter, mais c'est pour dire qu'il y a une colonne quand même à côté qui fait que je suis assez soucieux, on va dire ça comme ça, je suis assez soucieux de l'accessibilité de la langue, du fait, entre autres choses, mais pour ce qui concerne le langage, l'accessibilité, du fait de l'appropriabilité de la langue. C'est un concept que j'ai développé, l'appropriabilité de la langue. Alors c'est difficile à mettre en bouche, donc c'est surtout en alpha, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous l'expliquer. Dans toutes les politiques qu'on a connues ces 30-40 dernières années, en matière d'apprentissage, d'intégration, etc., on a essentiellement parlé d'appropriation. Quand on parle d'appropriation, qu'est-ce qu'on vise ? On vise le fait que l'apprenant s'approprie une langue. Et donc la responsabilité de la capacité d'intégrer, elle est reversée du côté de celui qui apprend. Si vous ne vous appropriez pas, c'est de votre faute. Et donc, si vous ne vous intégrez pas, c'est que vous ne vous êtes pas approprié, c'est que l'appropriation n'a pas eu lieu, donc c'est de votre faute, en tant qu'apprenant. La question, alors c'est une question qui est un peu hétérodoxe, c'est pas vendable sur le marché des langues. C'est... Est-ce que le français est une langue appropriable ? Parce que la première qualité, ou la première exigence, la première caractéristique qu'on devrait exiger pour s'approprier quelque chose, c'est que ce quelque chose soit appropriable. Et donc, en gros, ma question c'est, est-ce qu'on peut s'approprier le français tel qu'on s'approprie en langue première ? La réponse, encore ce matin, je ne sais pas si vous avez ouvert votre téléphone en mangeant ce midi, parce que je suis très occupé, mais les résultats des enquêtes PISA sont sortis. Scoop, ils ne sont pas bons. Alors, ils sont très maths, hein. Ils sont très orientés maths cette fois-ci, et ils ne sont vraiment pas bons, mais moi je m'en fous pas, c'est pas bien, mais ils ne sont pas bons du côté des maths, mais ils ne sont pas très bons du côté du français, et le français, on était déjà sous la moyenne de l'OCDE, et puis on commence à remonter, à se stabiliser, et puis on a reperdu avec le Covid, mais on a reperdu moins qu'au maths. Alors, on peut se réjouir, il ne faut jamais faire ça, mais comme on voit dans les journaux, on peut se réjouir parce que les néerlandophones sont meilleurs que les francophones. Ouais. Sauf qu'en fait, ils dégringolent de plus loin, et ils dégringolent beaucoup plus vite. Ils ont dégringolé peut-être un peu moins que nous sur les derniers, mais en fait, ils viennent de plus haut, et donc en fait, ils nous rejoignent, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, c'est le genre de choses, ça ne sert à rien de faire ça. C'est juste, ça nous rassure en disant, bon, on est mauvais, mais enfin, les autres nous rejoignent. Mais la question, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ça sert à rien d'aller voir si les Finlandais sont meilleurs, parce qu'ils ont une meilleure langue, ils ont un meilleur enseignement, vous avez des subdivisions de classe, il y a tout ce qu'il faut. Sauf qu'ils n'ont pas la même langue. Et il y a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que le finnois est une langue transparente. C'est une langue où vous écrivez ce que vous prononcez. C'est une langue où, du coup, mes collègues finlandais, quand ils m'entendent, me disent « Quoi, vous faites de la grammaire en primaire ?» Les Finlandais ne font pas de grammaire en primaire. Il n'y a pas, ça n'a pas besoin. Les anglophones ne font pas de grammaire en primaire. Les Anglais ne font pas de grammaire en primaire non plus. Pourtant, Dieu sait si leur orthographe d'usage est pire que celle du français. En termes de non-transparence, l'anglais est, contrairement à ce qu'on pense, plus difficile. Par contre, l'anglais a ceci de particulier, c'est qu'il n'a pas de problème de grammaire d'accord vu qu'on n'accorde rien. Si vous combinez l'orthographe avec la difficulté de l'accord, vous rendrez compte que le français part avec peut-être un handicap, c'est que s'il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à écrire correctement, donc il faut apprendre l'orthographe, il faut apprendre l'orthographe d'usage des mots, et il faut apprendre l'orthographe d'accord, les accords. Ce que les anglophones ne font pas, à part les mots, et ce que les finnois font encore moins, enfin les finnophones font encore moins, vu qu'ils n'ont pas de problème d'orthographe, tout est transparent. On écrit ce qu'on prononce. Et du coup, ce qui est intéressant de regarder, c'est où se trouvent les Français et les Suisses. Alors, les Suisses sont un peu globalisés. Donc, si vous regardez dans les chiffres qui ont été transmis dans le soir, on nous dit, bon, non seulement on est mauvais, mais en Fédération Wallonie-Bruxelles, on est parmi les pires en termes de discrimination à l'enseignement. C'est-à-dire que les 25% les moins bons sont le plus éloignés possible des 25% les meilleurs de l'OCDE. On a un chiffre qui équivaut à, un indice de 118 points. Ce qui est le troisième score après les Hongrois et les Slovaques. Et là, on se dit, bouf. Les Hongrois, ils ont un bon système scolaire pour eux. Hein, mais... Et c'est là que vous regardez que les Français sont quand même à 113. Les Suisses à 115, je crois. Donc, ils ne sont pas beaucoup mieux. Et c'est là qu'on se dit que peut-être, plutôt que de chercher et de taper toujours sur l'enseignement, enfin, il y a bien les choses à l'enseignement, tout le monde est un peu responsable, hein, la langue elle-même est peut-être un peu problématique. Et la manière dont on la conçoit est peut-être un peu problématique. Et ce qu'on nous fait faire est peut-être un peu problématique. Parce que si les Français et les Suisses sont dans le même bateau que nous, donc les Français en général sont... La dernière fois, on était ex aequo à Pisa. Youpi. On est peut-être les cons des Français, mais on est comme eux pour les Français. Et là, on est quand même dans un package où, effectivement, en matière de discrimination et de difficultés, enfin, d'écart entre les moins bons et les meilleurs, on est pire qu'eux, mais pas de loin. Et vraiment, pour moi, ça pose la question, c'est, est-ce que le français est vraiment appropriable? Je vous rappelle que les enquêtes PISA, les enquêtes qui sont faites pour les élèves qui ont 15 ans, pas un niveau d'études, hein, 15 ans, qu'en 2016, il y avait 47% d'élèves qui, à 15 ans, avaient déjà doublé au moins une fois. Ce qui signifie que nous, on est des champions du doublement, ça vous le savez, à l'école. Et que, en fait, la question qui se pose, c'est qui on interroge à 15 ans sur une compétence de lecture? Parce qu'en fait, les enquêtes PISA, ce n'est pas des exercices de grammaire, ce n'est pas de l'accord, ce n'est pas de l'orthographe, c'est est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Et en gros, nos élèves performent pas très bien. Et la question, c'est que c'est pas forcément qu'ils sont nuls, c'est qu'en fait, ils font autre chose. Et moi, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est qu'est-ce qu'ils font et comment faire autrement. Et du coup, ça peut avoir un impact si on s'autorise en enseignement ou si on s'autorise en discussion. Ça peut avoir un impact assez libératoire tant en français langue étrangère qu'en alpha. Mais évidemment, en alpha, aller commencer à parler de COD, tu rêves, quoi. On fout. En FLEPA, par contre, ce qui est assez bizarre, parce que le CO2, on n'en a pas besoin, sauf pour accorder le participe passé, et en fait, l'accord du participe passé, ce n'est pas une question de français langue étrangère, fondamentalement. C'est une question de français langue maternelle pour l'écrit. Mais comme les grammaires, elles ont toutes été décrites à partir du français langue première, et que la grammaire de français langue première est une grammaire de l'écrit, la grammaire du français langue étrangère reste une grammaire de l'écrit, alors que ce n'est pas ça qu'on vise. Et le formateur, que ce soit en FLE ou le formateur en alpha, est-ce qu'il s'autorise à bidouiller un peu le discours grammatical? Comme ce n'est pas sa tasse de thé de d'habitude, il n'y touche pas trop. Et il ne s'autorise pas à dire, en fait, il raconte des conneries dans ce discours, on va changer. Je suis professeur de linguistique française à l'ULB, moi, je peux. Je ne vais pas faire de mon Yann comme on dit à Bruxelles, mais c'est pas cette question-là. C'est qu'à un moment donné, il y a un problème d'autorité. Qui peut s'autoriser à dire ça va vraiment pas, quoi? Alors, ça n'est pas le formateur en alpha. En fait, lui, il n'existe pas dans le paysage. Ça n'est pas le professeur de FLE, parce que lui, il n'a pas de statut. Ou très compliqué. Alors, s'il a un statut, mais ce n'est pas facile. On est en communauté française de Belgique, que diable. Il n'y a pas de FLE à l'école. Parce qu'on ne peut pas dire que le français est une langue étrangère, vu que c'est la langue de la communauté. Pendant des décennies, on s'est heurté à ça pour pouvoir former des gens et avoir des masters en France en disant « Mais c'est pas un titre pour l'enseignement, il n'y a pas de français langue étrangère dans l'enseignement. » Parce qu'on ne travaillait que sur ce qui était enseigné dans l'enseignement obligatoire. Ben oui, c'est ce qu'on arrive encore à vous dire aujourd'hui, sauf que, allez dans les classes. Allez dans les classes de primaire. Alors évidemment, si vous l'allez à Singeling, indice socio-économique de 16, 18, 19, tout va bien, j'y étais. Et c'est une très chouette école, et c'est une école avec beaucoup de diversité. Mais c'est une diversité moins socio-économique que tout le reste. Et puis moi, je vais aussi à Notre-Dame du Sacré-Cœur de Scardé, indice socio-économique 1. Où là, vous avez une diversité, mais totale. Alors peut-être pas en genre nouveau mode, hein, parce que les gens sont assez traditionnellement considérés, mais avec des gens qui viennent de partout. Il y a un vrai problème, c'est que des gens qui viennent de partout, à toutes les années. Donc des primo-arrivants en 3e, 4e, 5e, 6e. Et parfois, 5-6 par classe. Ce qui veut dire que c'est assez difficile de construire un enseignement avec des gens qui sont parfois au niveau de l'alphabétisation, qui doivent se taper une DASPA en 5e, et qui n'y arriveront que très difficilement avec des enseignants qui parfois n'ont pas la possibilité d'avoir une DASPA dans leur école, et qui se retrouvent avec des gens qui doivent intégrer et qui font un boulot de dingue et un boulot génial, mais qui, bien sûr, ne feront pas le subjonctif présent en 6e, ou ne feront pas le conditionnel en 6e. Ou qui sont confrontés à « maîtrise toujours pas le présent en 5e, 6e ». Ça, c'est la vie des classes. C'est pas de l'alpha, mais ça montre que le territoire ou le terreau de ce qui se passe en communauté française de Belgique, ça n'est pas nos ancêtres les Gaulois. Ça n'est pas le blanc-bleu belge. C'est autre chose. Et si on ne s'en rend pas compte, et si on ne prend pas le problème à bras-le-corps, ben ça ne marche pas, ça n'avance pas. Alors, je dis que le français était compliqué, enfin, et peut-être pas appropriable. Il faut savoir de quoi on parle. J'ai une espèce de slogan, by the way, vous intervenez quand vous voulez pour poser des questions. Je suis bavard, vous m'interrompez, n'attendez pas forcément la fin, si vous avez une question, allons-y. Oui.
C'est une question que vous comprenez, c'est quoi, DASPA?
Un DASPA, c'est un acronyme, comme on est. Et c'est ce qu'on appelait avant les classes passerelles, c'est-à-dire...
Je suis posée,
d'accord. C'est un dispositif par lequel l'institution scolaire organise l'accueil de primo-arrivants qui vont devoir intégrer dans l'enseignement général ou moins général. Et donc, c'est un encadrement qui pouvait durer jusqu'à 6 mois, mais je crois qu'il est passé à 1 an. Où on leur donne, on les sort de leur classe, quoi. Au départ on appelait registre, là où ils étaient enregistrés, on les sort de ces classes et on leur donne une formation particulière pendant un certain nombre d'heures pour le mettre à niveau sur, alors là pour le coup, ce sera plutôt un français langue de l'enseignement ou un français langue d'apprentissage. Parce qu'en fait, on ne va pas leur apprendre à faire les courses, ce n'est pas ça qui intéresse, on veut qu'ils apprennent à comprendre les consignes de l'école. C'est la langue de l'école qui est importante. Et c'est ça aussi, quand on apprend aux enfants la langue dans le milieu scolaire, c'est pas, on leur apprend pas forcément le français social, on leur apprend le français pour qu'ils s'en sortent. Parce que déjà, s'ils maîtrisent ça, c'est déjà pas mal. Et ça rend les choses donc particulièrement compliquées. Donc, un de mes motos à moi, pour reprendre, effectivement, je trouve que le français, c'est pas une langue qui est facile au niveau graphique. Mais si vous regardez au niveau de la parole, c'est pas une langue très compliquée. Moi, j'ai l'habitude de dire, le français est d'habitude pour tous les natifs de la langue qu'ils parlent. Donc, moi, c'est le français, et beaucoup d'entre vous aussi. Le français, c'est pas une langue compliquée, parce que si le français était une langue compliquée, les cons ne parleraient pas, et pourtant, ils ne s'en privent pas. Alors, c'est une vraie boutade, mais pas que. Parce qu'en fait, le français, c'est comme toute langue, c'est fait de régularité. Et si c'est la langue à laquelle vous avez été biberonné, c'est une régularité dans laquelle vous baignez depuis que vous êtes petit. Ce qui fait l'apprentissage d'une langue ou ce son d'appropriabilité en termes de langue de communication, c'est le bain linguistique. C'est la connivence. Et on sait très bien que souvent, quand on a des élèves, des étudiants, et vous avez ça sans doute aussi en alpha, il y a un moment où il faut passer un cliquet psychologique qui fait qu'on ose. Et une fois qu'on ose, et qu'on se fout de savoir qu'on va faire une faute, ben on produit des choses qui sont beaucoup plus correctes que ce à quoi on s'attendait. Et en fait, c'est ça qu'il faut mobiliser, c'est la confiance. Alors, je ne vais pas être dans la bienveillance et dans la joie, parce que c'est fatigant, mais c'est de ça qu'il s'agit, c'est qu'il y a une manière de mettre l'apprenant dans un non-stress Et là, pour le coup, le français, on n'aide pas. On n'aide pas parce que... Franchement, on a des handicaps. Le français est une des langues dont la tradition est la plus puriste qui soit. Vous le savez peut-être, c'est quand on commence à faire une communication, quand un anglophone commence à faire une communication, une conférence, il fait une joke pour détendre l'atmosphère. Ça, il l'a fait en anglais. Et quand le même anglophone fait une conférence en français, la première chose qu'il fait, c'est « Sorry for my French ». Donc, il s'excuse. Pourquoi ? Parce que le français est jugeant. Et pour un non-francophone, il le sent très vite que le francophone est jugeant. Donc, on a un vrai problème de représentation linguistique. Donc, si vous ajoutez, l'orthographe, et que vous ajoutez la question de la représentation linguistique qu'on a quand on apprend, la question de la motivation, c'est pas « yeah !» C'est « oui, on y va », et il y a un petit côté entraînement à la dure. Hein. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre en compte toutes ces composantes-là pour se dire, en fait, l'apprentissage d'une langue, c'est quand même beaucoup de choses. C'est énormément de choses. Et on n'est pas rendu. Alors, on n'est pas rendu, surtout... Alors, je fais à l'envers de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On n'est pas rendu parce que on n'arrive pas à voir le paysage institutionnellement de ce que c'est que la biographie langagière des gens sur le territoire de la Fédération de l'Union. Si on avait cette espèce... D'abord, parce qu'on ne peut pas faire de recensement linguistique en Belgique, ça, c'est pour les questions de politique linguistique depuis les années 1960. Mais ce serait intéressant de savoir. Alors, il n'y a qu'une institution qui le fait, c'est mes collègues de la VUB, qui, du groupe Brio, qui font un tal baromètre sur Bruxelles. C'est possible sur Bruxelles, et qui se rendent compte qu'on a beau dire que Bruxelles est bilingue, mais il y a genre 104 langues pour 180 nationalités à Bruxelles. C'est autre chose que de la binarité. Donc, une fois qu'on se rend compte de ça, on se rend compte qu'effectivement, on est accueillant à Bruxelles. Mais est-ce qu'on est accueillant au niveau linguistique ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être accueillant si, par exemple, à l'école, on ne tient pas compte des langues d'origine ? Si, à l'école, on se focalise sur le français, le néerlandais, l'anglais, et peut-être un peu l'allemand, et voilà, et démerdez-vous. Donc tout ça, si vous mettez tout ça dans le panier, ça pose problème. Alors ça, ça va encore pour l'enseignement obligatoire. Mais se pose effectivement le problème des étudiants qui ne sont pas francophones qui arrivent dans l'enseignement. Alors, soit ils ont déjà des parents francophones, soit ils ont des parents qui ne parlent même pas du tout un mot de français à la maison, ce qui fait qu'ils ont zéro bain linguistique à la maison et que l'école est le seul lieu du bain linguistique. Tout ça, ça rend les choses relativement difficiles. Et vous avez toujours en haut un comité de pilotage de l'enseignement obligatoire qui vous dit, on va vous pondre des référentiels où tout le monde va avoir la même chose et que dès qu'il y en a un qui sort, qui va ailleurs, il pourra s'en sortir. Oui, enfin, le paradis est pavé de bonnes intentions. Mais le terrain... Alors, je ne suis pas pessimiste, je suis fondamentalement optimiste. Ce n'est pas ce que mon discours vous renvoie, mais sinon on ne se battrait pas. Mais le terrain ne vous dit pas ça. Et donc, il serait un peu intéressant que... Je vais mettre un bémol. Ils voient très bien la situation. Ils ne peuvent pas le dire. C'est toujours un peu clair, parce que si vous commencez à dire les choses, il y a des gens qui vous disent « Vous voyez, ils ne s'intègrent pas. » Donc, on ne peut pas le dire. Mais on voit très bien la situation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas travailler officiellement avec des structures officielles. Et pour telle structure, la politique correspondante, exactement. Et pas une espèce de politique globale qui ne fonctionne que pour une mini-structure qui n'est même plus majoritaire. Vous avez des écoles où la majorité des élèves ne sont pas francophones. Et on n'est même pas encore en alpha. Bon. Moi, ça fait 20 ans, c'est un ici que je m'occupe. Juste, je vais vous parler un peu de grammaire, mais très légèrement, de ce que je fais dans les écoles primaires, pour dire que je m'autorise. Quand je vous dis qu'on a le droit de s'autoriser, on a le droit de s'autoriser à faire autre chose. Alors, toutes ces recherches ont été scrutées tous les 6 mois par la communauté française, parce que comme ils n'avaient pas d'argent, la communauté française n'a pas d'argent, c'est pas une nouveauté. Je faisais que des contrats d'un an, donc une recherche longitudinale de plusieurs années, mais avec des contrats d'un an, ça faisait des rapports tous les 6 mois. Parce que vous avez toujours des rapports à mi-temps. Les ASBL savent ce que c'est que le financement. Donc j'ai fait des rapports de 200 pages tous les 6 mois, on se demandait ce qu'on avait le temps de faire entre les deux rapports. Bon, j'ai pu quand même travailler dans les écoles. Entre 2003 et 2016, je travaillais avec les enseignants, et les enseignants, ils éprouvent un malaise parce qu'en fait, ils ne voient pas le système dans ce qu'ils font, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence dans le système qu'on leur oblige d'enseigner. Il n'y a pas d'esprit critique. Hein. La réponse qu'on fait aux élèves quand on est enseignant, c'est comme ça. Quand un prof ne sait pas, il dit c'est comme ça. Et en fait, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est un peu arbitraire et dogmatique. Les outils ne sont pas satisfaisants. C'est une conception normativiste des choses, donc c'est très normatif. Et c'est pas, ça ne correspond pas à la pratique de la langue. Je donne juste un exemple. Allez. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait le féminin en français?
On ajoute un
bon. Ok. En fait, non. Un scoop, non. Quand je dis « il est parti, elle est partie », on n'ajoute pas de « e », je ne dis pas « elle est partie, e ». Et quand je dis « elle est grande », je ne dis pas « elle est grande, e ». Je prononce la consonne qui précède. Et donc, en fait, les règles telles qu'on les connaît, les règles les plus basiques, celles qu'on ne questionne même pas, sont des règles qui sont faites pour l'écrit. Allez dire en alpha, on ajoute un « e », et on n'entend jamais. Ce « e » n'est jamais prononcé. Pourtant, c'est la règle. Pourtant, c'est la règle, parce que c'est la règle que vous trouvez partout. Alors, le pluriel, on ajoute un « s », même chose. Hein. Si vous prenez un exemple comme « les grands-enfants chantent », les grands-enfants chantent, si je dis « le grand-enfant chante » et « les grands-enfants chantent », c'est quoi la différence? Il y a un « z » et il y a le « lait ». Le « le » et le « lait ». Le « e » est. Bon, imaginez que vous ayez un apprenant qui n'entend pas la différence entre « e » et « e », parce qu'il y a des apprenants de langue étrangère qui n'ont pas. Donc il ne fait pas la différence entre le singulier et le pluriel. Et vous croyez qu'il ne sait pas faire le pluriel. On a un vrai problème d'ailleurs, parce qu'il y a des tas d'apprenants dont les oreilles fatalement avec l'âge se ferment. Les oreilles commencent à se fermer à 9 ans. Donc il faut un peu tirer de plus en plus fort pour pouvoir faire enregistrer des sons nouveaux qu'on a l'habitude d'entendre. Un arabophone, par exemple, a du mal à différencier le « i » et le « u ». Bon. Donc il faut vraiment tirer, faire des exercices de phonétique corrective, etc. Donc on se trouve comme ça avec des gens, on croit finalement qu'en fait ils ne connaissent pas la grammaire, mais en fait ils n'entendent pas. Et donc on a des vrais problèmes. Et pour le « s », par exemple, pour le coup, la différence est sur le « e » qui devient « e » et le « z » de « grand ». Mais « enfant » et « chante » n'ont pas bougé. Donc, quand on a des règles comme ça en tête, qui sont des règles qu'on ne questionne plus parce qu'elles sont tellement évidentes, on les apprend depuis qu'on est petit, et on les répète et on les enseigne, ben, il faut savoir de quoi on parle. Ça marche à l'écrit, ça ne marche pas à l'oral. Or, en alpha, la première base, me semble-t-il, comme en fleuve, c'est asseoir l'oral. C'est asseoir l'oral, curieusement. Alors, est-ce que ça a du sens? Ben, il faut en chercher. Les points envisagés dans l'enseignement, ce n'est pas des points de grammaire communicative, hein, dans l'enseignement en général, et encore, une fois, quelque part, c'est normal. Quand vous enseignez le français, en fait, si vous l'enseignez à des francophones, donc vous enseignez comme français langue maternelle, vous pouvez raconter toutes les conneries que vous voulez en grammaire. Hein. L'enfant, il va parler, parce qu'il est dans un milieu francophone, et donc si vous lui racontez une connerie sur le subjonctif en disant « le subjonctif est le mode du doute », ce qui est une connerie, le montrer tout à l'heure, ben tant il s'en fout, il va quand même utiliser le subjonctif à un moment donné comme il faut, parce que c'est le bain linguistique qui le fait. Si vous faites ça avec un non francophone, ça marche pas, parce que lui il baigne pas. Hein. Et faites ça en alpha, ça ne marche pas non plus, parce que lui il baigne encore moins. Donc la question c'est, comment est-ce qu'on arrive à questionner des discours qui ne disent pas la réalité des choses? Alors il n'y a pas de vérité vraie, on est scientifique, on n'est pas en train de croire, on est en train de raconter une histoire et d'essayer de voir comment ça marche. Hein. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement trouver des discours qui disent ce qui se passe, mais qui soient prégnables et donc appropriables par l'apprenant. Vous allez me dire, ah oui, mais moi j'ai appris et je me suis approprié, on ajoute le E à la fin. Oui, sauf que vous appropriez quelque chose qui n'est pas vrai. Qui est vrai que dans un contexte particulier et pas vrai dans un autre contexte. Les conditions de l'accord seront les mêmes, les manifestations de l'accord seront pas les mêmes. Alors, les points qu'on envisage, c'est des points lexicaux qui requièrent la connaissance et de la mémoire, et donc c'est tout ce qui est de l'orthographe d'usage. Alors moi, j'ai ça pour vous. J'aime beaucoup ça. C'est québécois.
Je sais jamais comment l'écrire. C'est compliqué, le français.
Ben non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton mot?
Foi, ça prend-tu un E?
Ça dépend. C'est-tu la foi ou le foi?
La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E.
Non, si c'est la foi, ça prend pas de E.
Mais c'est quand que ça prend un E d'abord?
Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça. Non, mais toi, c'est la foi avec un S.
Non, le S, c'est au pluriel.
Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça.
Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs.
Oui, mais non, on dit La Voix X.
Mais pourquoi c'est pas un E d'abord?
Parce que la voie E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué?
Oui, c'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des trucs, la foi, là, croire, là, c'est souvent vide, c'est souvent pas vrai, donc il y a rien après. Tandis que la foi, comme une fois S, comme le fois E féminin, l'autre, c'est pluriel, c'est le contraire. Comme la voie X, sauf la voie E, le chemin. That's it, là.
C'est vrai que c'est pas compliqué, le français.
Ah oui, c'est compliqué. La graphie en français, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de correspondance son-lettre. Alors, petit scoop, s'il n'y a pas de correspondance son-lettre, c'est parce qu'on a emprunté l'alphabet latin et qu'on n'y a pas touché. Toutes les langues ont emprunté un alphabet à une autre langue et modifié l'alphabet en fonction de ses propres besoins. Donc les latins l'ont pris aux étrusques, ils l'ont pris aux grecs, ils l'ont pris aux phéniciens, ils ont à chaque fois changé l'alphabet, les alphabets ne sont pas les mêmes. Le français a pris l'alphabet du latin, il n'a rien changé. Pourquoi il n'a pas pu? Parce que le latin était la langue de la religion et de l'université et du savoir. Donc c'était des langues sacrées. Et on est dans la panade. Parce que on a au moins 10 voyelles de plus qu'en latin. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de sons? Parce qu'on a beaucoup plus de... Le latin est une langue assez transparente. C'est pas exactement le finnois, mais quasi. Donc c'était 23 lettres, 23 sons. Le français, c'est 36 phonèmes et 26 lettres. On a ajouté 3 lettres, mais en fait, on a dédoublé 2 lettres et on a pris un W allemand. C'est tout. Et donc, ça ne correspond pas, notre alphabet ne correspond pas. On aurait dû travailler à cet alphabet pour le rendre plus proche de son bébé français. On ne l'a pas fait, à cause du poids du latin. Le résultat, c'est qu'on a une orthographe de merde. Et voilà. Donc, elle n'est pas, pour le coup, appropriable et elle n'est pas très vendable sur le marché des langues. Donc ça, c'est une chose... Ah, j'aimerais bien qu'il avance, sinon je vais avancer... La deuxième chose, c'est la grammaire. Donc, d'accord, ce qu'on fait à l'école, ça reste très grammatical et ça reste très scriptural. Et donc, on a effectivement la nécessité d'apprendre les accords. Voilà.
Non, mais c'est bon, il était pas du tout con, le mec. Mmh. Mmh.
Quelqu'un peut m'aider avec la règle du participe passé avec l'auxiliaire avoir, s'il vous plaît?
Oui. Alors, ben, oui, c'est ça. Ça s'accorde avec être, mais par contre, ça ne s'accorde pas avec avoir. Sauf si le COD est placé avant le verbe, et dans ces cas-là, on accorde avec le COD.
Quelle galère ce COD, là, je te jure.
Ouais, j'avoue, c'est franchement un truc de pervers, quoi. Tu les imagines un peu les mecs qui ont inventé ça? Mmh. Mais tu les imagines un peu? Genre, Bernard?
Ouais?
Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on va se faire, du coup, avec cette histoire de participe passé, là?
Ça me gonfle, cette participe passé, toi, c'est ce qu'on va faire, on va dire que ça s'accorde avec le verbe être. Mais pas avec le verbe avoir. Comme ça, les mioches, on les perd en cours de route. Bam, le piège.
Pas mal, mais est-ce que c'est pas un petit peu, pardon, trop simple, cette affaire?
T'as pas tort, Bouli. Alors attends, on va dire que ça s'accorde pas avec le verbe avoir. Sauf le roulement de tambour. Si le COD passe avant le verbe, l'autre, il est là, il dit, ça y est, je suis mort.
Oh, c'est magnifique, Philippe. Mais alors, en même temps, moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on pourrait pas dire que si vraiment le COD est placé avant le verbe avoir, et ben ouais. Dans ce cas-là, bam, des fois, on accorde avec le sujet.
Ah non, c'est pas possible, ça, Jadoun.
De quoi? Attends, je sais plus.
Je te dis que c'est pas possible.
Ah, bravo, les parents. À part noyer votre ignorance dans l'humour, vous savez faire quoi?
Et t'as ton application de grammaire, hein. C'est pas pour les chiens, hein. Ça va.
Ouais, hein. Ah, bah, je savais très bien que ça servait à rien d'apprendre ça. Bon.
Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est des pastilles qui ont la même vocation. Donc, c'est des capsules qui sont publiées aux alentours du journal de grande écoute, donc du journal de 20h pour part en mode d'emploi, et au Québec, c'est la même chose du journal télévisé. C'est pour vous dire, c'est de la grande diffusion. Et donc, comment est-ce qu'on traite ça? On traite ça sous l'angle de l'humour. Certains d'entre vous ont ri, on en a entendu certaines très fort. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, dans notre cerveau reptilien, on se rend compte que ça a zéro logique. Parce qu'en fait, on rigole de choses qui sont complètement hors normes. Donc ça a zéro logique, et que la manière de s'en sortir, c'est d'en rire. Sauf que ça veut dire que c'est normal qu'on ne s'en sorte pas. Et ça dit plein de choses. Notamment, par en mode d'emploi, tu as ton application grammaire, c'est que vous avez tout un système économique, dont tout un microsystème économique qui profite de ça. Vous avez le projet Voltaire qui essaie de vous raconter des conneries monumentales. En fait, ça ne vous apprend rien, ça vous fait des exercices de drill. Ça coûte un pont pour des écoles qui n'ont pas de moyens et qui croient qu'elles sont obligées de passer par là pour améliorer leur orthographe. C'est dans le plan de pilotage. Et donc, ils font le projet Voltaire. C'est lamentable et c'est n'importe quoi. Et on ne prévient pas ces écoles. C'est le projet Voltaire qui est coupable. Et ça veut dire que dans notre tradition, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. C'est devenu un sujet de rigolade avant le journal de 20h. Ça veut dire que culturellement, c'est là qu'on l'a placé. Aucune langue ne fait ça. Et que quand c'est un truc qui n'est pas appropriable, que ce n'est pas possible qu'on est dans cette vidéo. Ici, vous avez un autre mode, donc les deux autres, c'est des capsules, c'est populaire, parce que c'est le journal de 20h, c'est le peuple qui regarde. Ici, c'est Fab Caro dans les Inrocks, donc c'est les bobos. Hein, donc, je ne sais pas si vous pouvez lire, je sais que vous savez. Hein, mais... Je ne sais pas si vous pouvez, donc je vais vous lire. Nous apprenons à l'instant qu'un forcené s'est retranché dans une classe de 5e. Selon nos dernières informations, il serait actuellement en train de leur faire faire des divisions à virgule. Sur place, nous retrouvons Nathalie Martois-Brossard. Nathalie, en sait-on plus à l'heure qu'il est? Écoutez, ici, la situation a évolué. On parlerait maintenant de dictée avec des participes passés. Nous pensons évidemment aux familles. Alors ici, ce qui est mordant, c'est pas aussi drôle en apparence que ce qui précède, mais c'est la première fois que je vois accord du participe passé lié au terrorisme. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est terrorisant l'accord du participe passé, c'est une violence sociale l'accord du participe passé. Donc, quand on en est là, de la compréhension, de la représentation qu'on a de sa propre langue, vous comprendrez que c'est un peu difficile de la faire aimer à quelqu'un d'autre, sans passer par, moi tu sais, c'est du boulot, hein, etc., etc. Donc il faut travailler, il faut faire des choses. Alors, quand on parle de triangle didactique, on va vous bassiner avec des éléments théoriques, mais il y a l'enseignant, l'apprenant et le savoir, et on a tout fait. On a étudié le rapport de l'enseignant au savoir, le rapport de l'enseignant à l'apprenant, de l'apprenant à l'enseignant, de l'apprenant à l'enseignant, mais on n'a jamais questionné le savoir. En fait. Parce que vous ne vous autorisez pas à questionner le savoir. Et à un moment donné, quand on a tout essayé et que ça n'a pas marché, c'est peut-être pas l'apprenant qui est débile, c'est peut-être pas l'enseignant qui est con, c'est peut-être le savoir qui est à revoir. Et ça, il n'y a que les profs du NIF à qui on autorise de donner une petite liberté, mais encore, qui vous aide. Ce qui n'est pas normal, hein. N'importe qui sur le terrain doit pouvoir voir, ce n'est pas logique, donc il doit pouvoir essayer de changer les choses. Alors moi, j'ai commencé à travailler plein d'années, j'ai essayé de retrouver du sens. Et j'ai construit un référentiel pour enseignants qui vient d'avoir un mini-impact quand même, pas si mini que ça, dans le référentiel, et qui sera utilisé dans un discours d'accompagnement pour l'école, qui est la volonté de remettre du sens dans le système. Ça aboutit à quoi? Un élément descriptif plus que normatif, la construction ou la déconstruction du sens. Quand on parle, on construit du sens, et quand on écoute, on déconstruit du sens, donc il y a une espèce de deal de sens qui se fait, c'est ça qu'il faut refaire, c'est pas forcément du deal de forme, mais c'est du deal de sens. Il faut que ça donne système, et il faut faire moins de grammaire tôt et mieux de grammaire plus tard. En primaire, le référentiel n'a pas changé de tradition, en primaire on fait faire toute la grammaire, à un moment où en fait ils n'ont pas d'abstraction. Ben si, mais limité quoi, la capacité d'abstraction elle se construit. Et comprendre le système, on peut le faire plus tard, mais on n'en fait plus la grammaire. Donc, on ne fait plus de grammaire au moment où on pourrait le comprendre. Alors, je vais vous passer... On confond la grammaire avec plein de choses, avec l'orthographe, parce qu'en fait, tout le discours de la grammaire du français est orienté orthographe. Les natures et les fonctions de mots qu'on oblige à étudier et qu'on essaie d'étiqueter, elles sont faites pour orthographier correctement. Elles ne sont pas faites pour comprendre comment la langue fonctionne. Si vous n'aviez pas la question de l'orthographe, comme l'anglais ne l'a pas pour ce qui est des accords, ou comme le finnois ne l'a pas pour plein d'autres raisons... En fait, vous n'êtes pas en train d'étiqueter des segments pour essayer de trouver comment ça marche. Non, vous êtes là, comment ça marche? Et vous n'avez pas de théorie, rien, vous essayez de comprendre le sens, et en parlant, vous vous appropriez les mécanismes de situation. On confond la grammaire avec du vocabulaire, par exemple, le subjonctif, la plupart du temps, on dit, on le met après tel verbe ou après telle conjonction, c'est du vocabulaire, c'est pas de la grammaire. On n'a pas de théorie du subjonctif qui vaille vraiment. Puis on est vraiment dans le conditionnement, on n'est pas vraiment dans la recherche de communication. Jusqu'à il y a peu, on faisait de la grammaire en première-deuxième, en primaire. Plutôt en deuxième, quand même. Vivre un stage là, ce qu'il faut, c'est s'assurer que les gens parlent et connaissent leur langue. Si vous commencez à faire de l'abstraction et de la grammaire tout de suite, en fait, on ne s'est pas assuré que ça reposait sur quelque chose de suffisamment, d'un fondement suffisamment solide. Moi, je suis arrivé à repousser la grammaire en troisième. Ce qui permet d'avoir un matelas de première, deuxième, où les enfants parlent, écoutent. Les non-francophones se font une base de bain linguistique suffisante. Les francophones eux-mêmes assoient leur capacité de langage. Donc, on n'est pas dans la grammaire tôt dans le cadre du référentiel. Et à partir de la troisième, en fait, la grammaire, elle sert à deux choses. Elle sert à rien dans la communication, c'est-à-dire que vous en faites très peu, mais elle sert aussi, après avoir, tiens, comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est quoi les règles du mécanisme. Et ça aide à mieux construire, à mieux développer. C'est à ça que sert la grammaire. Quand on n'est pas encore à un niveau, je peux développer, mais qu'on doit encore construire une base, la grammaire ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment travailler à la communication, et ce n'est pas à des gens qui travaillent en alpha que je prétends l'apprendre. Du coup, toute la question, c'est est-ce qu'on fait de la grammaire explicite ou grammaire implicite ? C'est une question qui est en FLE, c'est une question qui est dans toutes les variantes FLE, FLA, FUS, etc. C'est aussi une question qui est en alpha. Est-ce qu'il faut expliciter la grammaire ou est-ce qu'il faut simplement la garder implicite ? Moi, je n'ai pas de règle définitive. Je pense que la grammaire peut aider à condition qu'on en parle autrement. Et je pense qu'il faut en faire le moins possible, c'est-à-dire avec le moins de terminologie possible. Il faut que la distance entre l'intention de dire et la production soit la plus courte possible. Si vous mettez de la grammaire, vous construisez un matelas d'abstraction entre les deux, donc un chemin de réflexion qui n'aide pas à passer de l'intention à la production. Passif-actif, ça rend un peu la même chose. Grammaire de phrase versus grammaire de texte, ça c'est phénoménal en fait. Et pour vous qui travaillez en alpha, vous devez vous en rendre. Les outils qu'on a construits, vous regardez dans la grammaire, et c'est une des raisons, à mon sens, pour lesquelles on se plante à Pisa. Comme on travaille très fort sur l'orthographe, c'est des outils qui sont dans la phrase. Pourquoi ? Parce que les classes de mots, elles sont où ? Dans la phrase. Les fonctions, c'est les fonctions de la phrase. Et l'orthographe se place où ? Dans la phrase. Vous n'accordez pas une phrase avec une autre. Ce qui veut dire que comme vous construisez les classes de mots, les fonctions jusqu'en sixième, et qu'on voit à peine un peu la grammaire de phrase de temps en temps avec ce qu'on appelle les progressions thématiques à 14 ans, donc en deuxième secondaire, quand ils arrivent à 15 ans à Pisa, pour peu qu'ils aient dépassé déjà la deuxième année, ils n'ont jamais fait de texte quasiment. Ils n'ont fait que de la phrase. Parce qu'en fait, on leur apprend que de la phrase. On se fiche de savoir si la phrase a un contexte, si elle est... Or, en fait, une phrase a du sens dans son contexte en fonction de la phrase de gauche, de la phrase de droite ou de l'organisation du texte. C'est ça qui ne va pas. Moi, ce que j'ai essayé de faire à l'école, c'est commencer par le texte dans les deux premières années. Comme un enfant qui arrive à l'école, il sait pas ce que c'est qu'une phrase à la base. Il sait juste qu'il y a des discours, qu'il y a des trucs qu'il traverse, il y a des albums qu'on lui lit, il y a des histoires qu'on lui raconte, donc il est dans les textes et les discours. Et ben, on part de là. Et on questionne, et on se demande de quoi on parle, etc. etc. La forme versus le sens, j'en ai déjà un peu parlé. Les règles d'usage versus les règles d'emploi, ça c'est aussi... Alors ça pourra vous être utile. C'est une espèce de concept qui concerne notamment les réseaux sociaux. Alors, en alpha, on n'est pas encore sur les réseaux sociaux, mais le principe de... Il y a les règles de la grammaire qui sont dans le bon usage, et en fait, en fonction des circonstances, ces règles, si vous les appliquez, ça ne va pas le faire. Je vous donne un exemple de réseau social, mais ça peut se trouver à différents endroits. C'est quand vous écrivez maintenant en messagerie instantanée, si vous mettez une majuscule et un point dans votre cartouche de message, la personne qui le reçoit souvent considère que c'est une agression. Alors que c'est la norme, hein. Majuscule point. Moi, je suis toujours majuscule point, je suis un peu con, j'arrive pas à me dire cette migration. Mais il y a des études qui ont montré que l'utilisation en messagerie instantanée de la majuscule et du point est perçue comme agressif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous écrivez dans un cartouche dès que vous appuyez Enter, évidemment, ça part. Hein. Pour ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir aller au paragraphe, ils sont foutus, ils vont envoyer plein de messages. Mais moi, je suis comme ça aussi, je suis un peu, voilà. Je ne suis pas digital natif, mais je le soigne. Et donc, c'est le cartouche qui fait phrase. Donc, si vous mettez à l'intérieur du cartouche une majuscule et un point, vous le surmarquez. Si vous surmarquez quelque chose, c'est comme ça. Et donc, règles d'usage, il faut les mettre. Règles d'emploi, surtout pas. Alors, c'est un exemple qui ne vous concerne pas forcément, mais ça montre en fait qu'en fonction des contextes, on va faire différent. Et on va faire différent. Et c'est là aussi quelque chose dont on ne se rend pas suffisamment compte, c'est que par rapport à l'image qu'on a de l'enseignement, d'une manière générale, on pense qu'on enseigne le français. Mais le français, ça n'existe pas. Alors, quand moi j'étais à l'école, donc dans les années, j'ai appris le français. Et j'ai appris l'écrit. On faisait pas d'oral. Puis dans les années 80, on a commencé à faire de l'oral. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, l'oral, ça n'existait pas, qu'il y en avait plein, parce que ça dépendait des contextes, on parlait différemment, machin. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait l'écrit, puis l'oral, et puis en fait, non pas l'oral, mais les oraux. Et puis avec l'avènement du mail, des messageries, du clavardage, des claviers, on s'est rendu compte qu'il y a quand même plusieurs variétés d'écrits auxquels on était confrontés. Et on disait, ouh, mais ils écrivent comme ils écrivent en SMS dans leur dissert, ce qui était faux. Donc on va s'en sortir. Et on se rend compte que tout d'un coup, il n'y a pas qu'un écrit, mais plusieurs écrits. Une multitude d'écrits en fonction des supports que vous avez choisis. Et que ce qu'on doit développer, ce n'est pas l'exclusivité d'un écrit, etc. Certes, il y a une variété socio-professionnelle qui est privilégiée, mais ce qu'on doit privilégier, c'est l'intelligence adaptative qui fera que vous choisirez la bonne forme pour le bon contexte. Ce qui rend encore les choses plus complexes. Et en alpha, bon, si on arrive déjà à mettre une variété, c'est bien, mais s'il faut en mettre plusieurs, c'est plus compliqué. Mais c'est le plus juste. Mais du coup, ça éloigne, et c'est peut-être ça qui permet de rééquilibrer les choses, ça éloigne de ce qui est intéressant pour le français et langue étrangère et l'alpha. L'orthographe n'est pas intéressant pour le français et langue étrangère et l'alpha dans un premier temps. L'orthographe, quelque part, pour le français et langue étrangère ou pour l'alpha, c'est un objectif spécifique. S'ils savent déjà lire, écrire, pour qu'on les comprenne en n'étant pas puriste, en disant etc., si on sait, ben, on a déjà gagné. Parce que c'est ça. Ils doivent pouvoir socialement s'intégrer en utilisant les compétences, savoir-faire qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et ça, à la limite, plus on se rend compte qu'il y a de variétés de français multiples, moins on est complexé parce qu'on n'en maîtrise pas une, mais on en maîtrisera d'autres. Et plus on est contraint de se dire, la première chose à faire, c'est asseoir la communication. Donc, il y a certes le savoir savant, on ne se pose pas la question de savoir si le savoir est enseignable, hein, ça, voilà. Il y a un savoir qui est à enseigner, c'est l'institution qui le décide. Il y a le savoir enseigné, c'est ce que les élèves ont retenu, ça ne dit pas grand-chose en matière de grammaire. Mais il y a aussi un savoir, mais un savoir-faire langagé et un savoir-être langagé. Et ça, le développement du savoir-faire langagé, du savoir-être langagé, il est plus dans la pratique. Et celle qu'on va rencontrer dans les associations ou dans les cours de FLE, que à la limite dans le cours de français langue première. Parce qu'on pense que le savoir-faire est là en français langue première. Et on ne se questionne pas sur ce que c'est que le savoir-être langagé. Or, pour un non-francophone, le savoir-être langagé, c'est-à-dire le positionnement de soi par rapport à une langue, et l'angoisse, la difficulté, l'accoutumance positive à la langue, ben, c'est super important. C'est le côté non-jugeant, le fait que c'est pas, on ne va pas être puriste, c'est que c'est le moment de se planter, mais après, ben, il faudra moins se planter, et des choses comme ça. Donc, ce que moi j'ai proposé, c'est un modèle. Alors un modèle scientifique, c'est un peu tout se passe comme si ça se passait comme ça. C'est un peu un conte de fées. Hein. C'est pas la vérité. On dit que c'est un peu la même chose. Et tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de réduire toute la grammaire à un principe de base, c'est qu'on ne parle pas pour ne rien dire. Et donc quand on parle, on dit quelque chose de quelque chose. Et donc on apporte de l'information à quelque chose qui va être le support de l'information. Alors, c'est un truc qui existe depuis les latins, machin, mais qui a été complètement enterré par d'autres gens, mais c'est de retrouver un mécanisme simple, c'est un mécanisme d'apport à support. Alors, il y a effectivement l'idée que si on doit faire de la grammaire, c'est pour déconstruire ou construire le sens. Et donc, je vais parler de quelque chose, et je vais en dire quelque chose, et je vais essayer de retrouver sous tous les angles cette espèce de relation de quoi je parle et qu'est-ce que j'en ai. Alors, je ne vais pas vous faire un cours théorique, mais à tous les niveaux, communicatif, discursif, logique, informatif, sémantique, syntaxique, morphosyntaxique, ils ont toutes les couches de linguistique, on peut retrouver cette relation apport-support. Mais je vais utiliser avec vous celle qu'on utilise le plus à l'école, parce que ça concerne l'orthographe, c'est la structure cohésive. Parce qu'il y a un support et un donneur d'accord, qui va être donneur d'accord, et un apport qui va être receveur d'accord, je vais essayer de vous montrer. Si vous prenez des phrases qui sont relativement simples, pas très compliquées, et que vous regardez la question de l'accord, ben, il y a 8 règles d'accord qui sont mobilisées dans ces 5 phrases. 8. La question, c'est, est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple? La réponse est oui. On passe à une règle. Et la règle, c'est, l'adjectif et le verbe s'accordent avec le mot qui se rapporte. L'adjectif ou le verbe vont apporter de l'information à leur support. En échange, le support va transmettre ses marques pour faire des blocs de cohésion, comme ça on voit à quoi les gens se rattachent. C'est à ça que sert l'accord. L'accord, ça ne sert pas à mettre un E ou ça ne sert pas à mettre un S. C'est ce que les enfants pensent. Parce qu'on ne leur dit pas à quoi sert l'accord. L'accord sert à faire des blocs de cohésion. C'est à ça que ça sert. Mais le savoir, c'est bien, mais le dire à l'enfant, c'est mieux. Mais du coup, on n'a qu'une règle. L'adjectif et le verbe s'accordent avec le mot auquel ils se rapportent. C'est la règle qui doit passer d'abord. Parce qu'en fait, un mot qui apporte du sens, un apport, s'accorde avec son support, c'est-à-dire le mot auquel il apporte de l'information. Un adjectif prendra le son genre et son nombre de son nom, du nom ou du prénom auquel il se rapporte, le verbe du sujet, du mot auquel il se rapporte. Et tout marche comme ça. Donc il n'y a qu'une seule règle. C'est quand même plus simple. Alors oui, vous allez dire, mais il y a des exceptions. Alors, le principe, et je suis parvenu à faire rentrer ça dans le référentiel, c'est que on doit rentrer dans la langue à l'écrit par la régularité. En fait, les langues sont super régulières. Oui, il y a des problèmes. Des chenilles, comme dirait les Suisses, c'est-à-dire des espèces de poussière, un peu, etc. Oui, il y a des problèmes. Mais fondamentalement, la langue est régulière. Si je vous demande, par exemple, est-ce que la conjugaison, c'est régulier en français, vous allez me dire, non. T'as vu le bécherel? Pour moi, vous tendez le bécherel à quelqu'un, vous lui tendez le symbole de son impuissance. Pour moi, c'est une horreur, le bécherel. Mais vous savez quoi? En français, plus de 90% des verbes sont des verbes en ER. C'est-à-dire une conjugaison hyper-régulière. Ça, on ne vous dit pas. Hein. C'est un peu comme l'orthographe. Il y a 85% de régularité dans l'orthographe française. Puis il y a 15% de... Mais on passe notre temps, toute la scolarité sur 15%. Au lieu de commencer à dire, mais vous voyez, 85%, ça marche. Et donc, rentrer par la régularité...
Apporter une règle.
Ah, bien sûr, quand il y a un truc qui ne marche pas, on le dit, ah ben, là, ça ne marche pas. C'est pas grave. Sachez que là, ça ne marche pas. Mais au moins, on base les choses sur la régularité. Ça vous dit quelque chose, l'accord du participe passé? 42 règles dans le bon usage. 42. 3 règles ici. Alors, est-ce que c'est un truc de fleu? Non. Sauf pour le niveau perfectionnement, parce qu'ils doivent écrire. Est-ce que c'est un truc d'alpha? Non. Mais comme c'est une grosse baudruche, je le fais quand même. En fait, vous avez tous les trucs, et tout ce que vous voyez, c'est que le participe passé employé seul s'accorde avec le mot qui se rapporte, le participe passé employé avec aide s'accorde avec le sujet, et puis avec avoir, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, s'accorde avec le COD si celui-ci précède. Donc, trois blocs de règles. Je vous passe les pronominaux. En fait, il n'y a qu'une règle. Le participe passé s'accorde en genre vraiment avec le mot qui se rapporte. Comme un simple adjectif. Pourquoi ? Participation pluriel, seul s'accorde en genre avant avec le mot qu'il se rapporte. C'est la règle de l'accord de l'adjectif. Donc énervé, seul, s'accorde avec le mot qu'il se rapporte, elle, comme un adjectif. Qu'est-ce qui est énervé? Elle. Le participation pluriel avec auxiliaire être s'accorde en genre maintenant avec le sujet. Elle est partie. C'est vrai. Qu'est-ce qui est partie? Partie se rapporte à elle. C'est le mot qu'elle se rapporte. On se fout de savoir que c'est le sujet. Et en plus, ça ne marche pas toujours. Si je vous dis, je leur ai demandé d'être parti pour 5 heures, parti va s'accorder avec l'heure, qui n'a pas du tout une tranche de sujet. Donc ça risque de poser des problèmes. Le participe passé employé avec avoir s'accorde en genre, un nom avec le COD si celui-ci précède le participe passé. La pomme que j'ai mangée, qu'est-ce qui est mangé? Ben voyons. Normal. On accorde avec le mot qui sera pas. Oui.
Je me dis, mais dans ce cas-là, donc si c'est uniquement la règle de s'accorder en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte, j'ai mangé la pomme. Qu'est-ce qui est mangé, la pomme?
Alors, vous savez très bien, pour ceux qui ont un peu de... qu'en fait, quand le COD suit, quand le support suit, on va éviter de dire le COD, il y a ce qu'on appelle l'histoire des moines copistes, c'est-à-dire qu'en fait, au Moyen-Âge, on écrivait souvent pendant toute une période tous les mots collés et on écrivait sous la dictée. Donc quand vous dictez et que vous arrivez à la pomme, puis vous arrivez à manger, votre support précède, vous pouvez accorder tout de suite. Si le support est derrière, vous allez continuer à écrire, il faut que vous reveniez en arrière. Vous n'allez pas faire un petit hirondelle pour aller mettre votre... Oh merde, j'ai oublié une lettre, il y a un manuscrit enluminé, ça coûte blinde. Et donc, on ne va pas commencer à faire... Donc, l'hypothèse scientifique qui est posée, c'est effectivement que les moines copistes, à un moment donné, ont arrêté d'accorder. Cela étant, Bon, je vais d'abord finir ça, puis après je vais vous dire le fond de ma pensée. Donc en fait, ça marche assez bien. Il y a un avantage à dire ça, c'est que c'est la même règle que l'accord de l'adjectif et du verbe. L'adjectif et le verbe s'accordent avec le mot qui se parle, le participe passé aussi, et d'ailleurs le participe passé. C'est quoi un participe passé? Dites-moi un peu. À quoi ça sert? Est-ce que vous vous rendez compte? On a calculé, on passe 80 heures dans l'enseignement secondaire par faire de l'accord du participe passé. Et les gens ne savent pas ce que c'est. Et ils ne savent pas à quoi ça sert.
C'est magnifique.
C'est quoi le geste pédagogique de ça? À part.
C'est l'orthographe, ils doivent connaître.
C'est, pour moi, c'est le sommet du truc qui ne fonctionne pas. On passe des dizaines d'heures à ça. Et vous posez la question à un élève, c'est quoi un participe passé? Il y a quoi ça c'est Au mieux c'est avec avoir et être, c'est un temps. Oui, c'est déjà pas mal. Mais les enseignants ne le savent pas plus parce qu'en fait ils ne se posent pas la question. Et pourquoi ils ne se posent pas la question? Parce que ça fait partie du corpus des choses à enseigner. Point. C'est, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas dans le patrimoine. Il y a un patrimoine grammatical qui n'est pas questionnable et si vous ne l'avez pas, ben, vous n'avez pas le pouvoir symbolique de savoir. Il y a l'orthographe, c'est comme, il y a ceux qui savent. C'est une catastrophe, ça. Et du coup, le rendre à la généralité des autres accords est rien tel. En fait, on ne doit même pas discuter de l'accord du participe passé. Quand on rencontre ça, on l'accorde avec le mot qui s'apporte, comme si on rencontrait un adjectif ou un verbe, on n'en fait pas une baudruche, on ne le fait pas. Ben, ça, c'est des dizaines d'heures dans l'enseignement, ça ne sert à rien. Sauf avec cette règle-là. Et quand vous expliquez ça aux gamins qui se sont tapés tous les COD, les machins, etc., pendant des heures, et vous leur expliquez ça, moi j'ai eu un exemple, c'était aux Ursulines à Namur, école secondaire, les élèves sont restés pendant la cour de récréation parce qu'ils trouvaient ça fun de savoir accorder le participe passé. Donc ils ont sacrifié leur cours de récréation, leur récréation, pour faire des accords de participe passé. Personne n'a eu ça dans sa vie. Moi j'ai eu. Je ne sais pas si j'en suis fier. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on est. Les deux slides vous permettent de voir quand même de quoi ils retournent. On est donc orienté orthographe dans l'enseignement. Ce qui n'est pas du tout votre cas, c'est pas votre truc parce qu'en fait, pas besoin. Donc, on est orienté orthographe. On doit accorder des éléments. En français, on doit construire tout un système fonctionnel parce qu'on accorde avec le sujet, avec l'objet, avec etc. Donc, il faut connaître les fonctions avant de pouvoir accorder. Puis seulement, vous pouvez accorder. Il y a des études qui ont montré qu'à 16 ans, le métalangage ou la terminologie de grammaire, nature, fonction n'est appropriable qu'à 75% par un apprenant de français langue première. Donc à 16 ans, 75% du matériel. Mais par contre, on emmerde à 8-10 ans avec l'accord du participe passé, avec le CED qui précède, et tant pis s'il n'y arrive pas. Ce que je vous propose, moi, c'est qu'en fait, vous avez un élément à accorder, vous trouvez son support et vous accordez. Basta così. Et du coup, les fonctions, vous n'êtes pas obligé de les faire en fonction des natures de l'orthographe. Vous pouvez faire les fonctions en termes comment ça fonctionne. Donc moi, à l'école primaire, comme fonction, je n'ai que ça apporte du sens à tel support. Donc apport, support. C'est tout. Et on peut utiliser juste ça. Avec cet avantage, c'est que vous n'interrogez jamais les gens sur le système fonctionnel quand ils foirent. Parce que vous ne savez pas quand ils foirent ou ça a foiré. Quand plus vous ajoutez des tranches de savoir, vous ne savez pas laquelle a foiré. Enfin, celle-ci, vous pouvez être sûr que c'est un peu foiré. Et donc, l'inconvénient, ça, et ça, appliquez le temps au français langue étrangère qu'en alpha, l'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, vous excluez des gens sur une base qui est leur propre langue. Donc, vous dites à des gens, t'es dehors, tu connais pas ta langue, c'est pas ta langue. Au nom de Dieu, c'est sa langue. On ne peut pas autoriser un pouvoir, quel qu'il soit, un enseignant, à dire « c'est pas ta langue, c'est sa langue ». C'est peut-être pas ta compétence de répondre à la question que je t'ai posée, mais c'est sa langue. Et si on n'est pas foutu de lui expliquer comment fonctionne sa langue et de le faire fonctionner, c'est pas forcément la faute de l'enfant, parce qu'il la parle, sa langue. Donc il y a des tas de... On parlait du redoublement, les friands, même si elle aimerait bien se débarrasser de cette espèce de plume au chapeau, on fait redoubler des enfants parce qu'ils ne maîtrisent pas l'orthographe. Et c'est une insulte à l'intelligence collective. Oui.
Est-ce qu'en Belgique, on a comme une instance, comme ils ont en France, avec l'Académie française, par exemple?
Alors, il y a une académie en Belgique, Mais qui ne sert à rien. mais qui, de sa propre autorité, a décidé de ne pas servir à grand-chose, de démettre des avis sur eux. Mais c'est pas... Il existe ce qu'on appelle un conseil... De, alors, il a porté plein de mots. Un conseil de la langue et des politiques linguistiques. Aujourd'hui, il porte le doux nom de Conseil de la langue française, des langues régionales endogènes et des politiques linguistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mais donc, qui décide si, par exemple...
C'est moi. Je suis président. Je suis président du conseil, mais on n'est président que deux ans.
Non, mais si on veut faire des modifications...
Alors, ça, c'est un vrai problème. Donc, nous, on a remis un avis, donc moi, je suis un peu chiant. Vous l'aurez remarqué, je ne me laisse pas toujours faire. Et donc, il y a des délégations de politique linguistique dans les différents pays de la francophonie du Nord. Et on essaye de pousser, et on a réussi à pousser, à faire en sorte que les différentes délégations, qui parlent au ministre de la Culture respectif, demandent la création d'un collège des francophones. Collège des francophones pour le Nord et le Sud, c'est-à-dire avec des parties de la francophonie de partout. Parce qu'en gros, on ne peut pas simplement s'unir avec des gens... Il n'y a pas d'instance, par exemple, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de conseil de langue dans ces pays-là. Et c'est ce qu'on nous a toujours rétorqué. Donc, on nous a dit qu'il faut prendre l'Organisation internationale de la francophonie, mais c'est quand même très francophone, très franco-centré. Nous, on a toujours poussé pour avoir. Et donc, on est parvenu à demander à nos instances, parce que ça ne prend pas de plomb, hein, la création d'un collège des francophones pour qu'ils puissent réguler l'usage et qu'ils puissent dire comment ça évolue et comment il faut accepter. Parce que l'Académie française, c'est une institution d'ancien régime. Hein. Moi, je suis étonné qu'ils n'aient pas été décapités à l'époque. Hein. Je ne suis pas violent. Mais de nature, non. Mais en général, dans la famille, j'ai des slogans ou j'ai une manière de dire... C'est, si l'Académie s'effondre au Quai Conti et coule sous la Seine, le français existe toujours. Si vous cousez les manches et les lèvres de tous les francophones, le français meurt. Le résultat, c'est qui est censé avoir le pouvoir du coup ? C'est les francophones, c'est pas l'Académie. L'Académie, c'est une institution, il n'y a pas un grammairien linguiste depuis le début du XXe siècle à l'Académie française, c'est un scandale. Ils n'ont pas toujours été rétrogrades, etc., mais c'est un instrument politique à la base, et ce n'est pas du tout un instrument académique scientifique. Donc on n'a pas ça, on a juste une académie, mais elle est gentillette, et puis il y a un conseil de la langue qui propose des choses, que le politique ne fait pas parce qu'il n'en a rien à foutre, parce qu'il a d'autres chats à fouetter, mais peu importe, il propose des choses. Et d'ailleurs, en la matière, le conseil de la langue de la Belgique francophone a proposé qu'on rende invariable, qu'on laisse invariable l'accord du participation employé Cavoir, par exemple. Ce que vous avez eu, pour ceux qui l'ont vu avec la convivialité, ils ont fait tout un bins en France, c'est le conseil de la langue qui les a formés, qui a discuté avec eux, la pièce de la convivialité, et qui fait avancer ça. Moi, j'ai refait au début de cette année un avis à la ministre de la Culture pour qu'on rende, qu'elle autorise, alors, elle ne peut pas changer la règle, la ministre, hein, donc je ne vais pas demander... Rendez ça invariable. J'ai dit, prenez un décret de tolérance pour ce qui est de l'invariabilité, etc. C'est-à-dire qu'on autorise à ne pas juger comme faux l'invariabilité du participatif, ce qui est la première étape. Ça, le politique peut le faire, mais ce n'est pas une académie. Elle peut prendre un circulaire ou un décret de tolérance. Donc ça, moi, je l'ai demandé.
Pour les écoles.
Pour l'école, pour les examens, les concours, enfin pour tous les jugements. Ce qui est quand même... Enfin, ça... Dans le nouveau référentiel, l'accord du participatif, il ne voit plus les pronominaux. Hein. Il voit juste les règles générales de être, avoir et... C'est vrai. Donc du coup, il passe à côté de plein de choses. Et c'est tant mieux. On s'en fout. À un moment donné, on va essayer de remettre du sens dans cette histoire. Et... Je vais m'arrêter là, de ce que je voulais vous dire, parce que je vous ai déjà dit pas mal. Puis le reste, on m'arrête trop loin. Tout le reste, après, c'est comment, justement, on agit politiquement pour faire changer les choses. Moi, j'ai fait 20 ans de recherche en français langue première. Je suis arrivé à rentrer d'abord par le qualifiant. Alors, c'est horrible à dire, mais mes gouvernants s'en foutaient un peu du qualifiant. Donc, moi, je suis arrivé, j'aurais dit, écoutez, c'est bien gentil, mais visiblement, la grammaire, ça n'a pas marché pour eux si on faisait cette grammaire-là. Et donc, il y a un discours alternatif dans le programme du qualifiant de 2015 qui est repris. Et puis ils sont venus me chercher pour le référentiel, mais genre deux jours avant le dépôt, parce qu'en fait certains réseaux ne voulaient pas que je vienne. Parce qu'ils avaient fait leur programme deux ans au préalable et qu'ils ne voulaient pas qu'on change tout, mais ils se sont rendus compte quand même que comme les référentiels, ça a été le merdier, ils sont venus me chercher deux jours avant pour que je relise tout et que j'essaie de mettre de la cohérence. Je fais ce que j'ai pu, mais... Mais j'ai pas, c'est pas des trucs que je fais. Et puis après, ce que j'ai pu faire, c'est dire, ben, enfin, c'est bien gentil, mais ce serait bien que les profs aient un discours d'accompagnement sur la grammaire à l'école. Et donc, j'ai écrit avec les conseillers pédagogiques de tous les réseaux, avec accord de tous les réseaux, ça s'était jamais vu, un discours grammatical où je remets beaucoup de cohérence dans les choses. Et c'est censé être voté, mais ça fait 6 mois qu'ils ont du retard. Donc, on croise les doigts pour que ce soit voté avant la fin de la législature, pour que les profs aient ça. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pas d'abord, c'est pas juste pour me vanter. Même si ça, j'en suis vraiment fier. Je crois qu'il y a peu de choses dont je suis autant fier que de faire changer l'enseignement de la grammaire dans une communauté. C'est mon boulot. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a moyen. Ça prend des plombs. Ça a pris 20 ans. Mais il y a moyen, et il y a moyen de faire bouger les choses. Là, le référentiel, si je n'étais pas rentré dedans, j'en ai pour 15 ans pour pouvoir rentrer dans... Je n'ai pas pu avoir tout ce que j'ai eu, mais on sait très bien que ce référentiel, on en a pour 15 ans. Et si on en a pour 15 ans de référentiel, ça veut dire que le FLE en a pour 15 ans avec ce type de pratique, et ça veut dire que tout le monde est coincé avec le même type de discours. Ici, le fait de faire ça permet de relancer des constructions de sens, des manières de faire pleines de sens. Et du coup, ça vous autorise plus à expliquer le sens différemment. Si vous avez des étiquettes, qui est en fait la pratique traditionnelle, c'est l'étiquetage, vous devez reconnaître un segment et le nommer. C'est ça, savoir faire de la grammaire à l'époque. C'est pas ça, faire de la grammaire qui vous permette de communiquer, qui vous permette de parler. Savoir comment j'articule les éléments pour qu'ils fassent sens, comment je les articule pour qu'ils fassent cohérence, comment je construis, comment si je mets l'information là, elle n'a pas le même sens que si je la mets là. C'est ça qui fait sens. Et que ce soit en français langue maternelle, en français langue étrangère, surtout, et aussi en alpha dans une certaine mesure, parce qu'à partir du moment où ils comprennent dans la parole que l'ordre des mots et de l'information a du sens ou amène du sens, ben voilà, et ils le font. Et ils s'y connectent. Donc moi, c'est ça qui est important. Et pourquoi je le fais? Parce que j'ai beaucoup aimé que dans ma présentation, vous ayez dit que je luttais contre les discriminations depuis longtemps, parce qu'en fait, c'est une question de ça. C'est fondamentalement une question de droits humains. Vous ne pouvez pas priver un individu de sa possession de la parole. Parce que c'est par la possession de la parole qu'il dit le monde, qu'il transforme le monde. C'est un médiateur fondamental. Et donc, c'est un instrument de pouvoir. Aujourd'hui, il y a plein de connards qui abusent du langage pour dire des conneries et qui, pour influencer les gens. Pour moi, armer le citoyen francophone pour qu'il comprenne exactement les conneries qu'on lui raconte et qu'il permette de s'en sortir en disant « ça ne passera pas par moi », c'est une arme fondamentale. Et ça doit passer par une déconstruction du savoir grammatical, déconstruction, c'est à la mode, ça doit passer par une déconstruction du savoir grammatical étatique, alors qui nous est imposé par la France depuis longtemps, hein, mais quand même, je vais passer par cette déconstruction-là pour passer par une réelle appropriation parce que, et je termine par où j'ai commencé, parce qu'en fait, on a rendu la langue appropriable parce que c'est la sienne. Je vous remercie. En 2008, le Conseil a fait prendre une circulaire par les ministres de l'Enseignement qu'on enseigne prioritairement la langue maternelle. Sauf que quand vous dites ça, les gens ne le font pas. Surtout s'ils n'ont pas envie. Et le résultat, c'est que maintenant, en fait, dans le référentiel, il est mis que l'orthographe recommandée, c'est l'orthographe certifiée depuis 1990. À l'époque, les ministres ne pouvaient pas parce qu'il y avait différents réseaux d'enseignement et les ministres n'avaient pas de pouvoir sur les réseaux d'enseignement. Ici, le référentiel a été voté par le Parlement. Et donc, le fait de l'avoir mis dans le référentiel voté par le Parlement, le rend obligatoire. Je veux dire maintenant, l'orthographe rectifiée est la norme. Avec l'idée qu'on doit tolérer l'ancien orthographe, on n'est pas punitif, etc. Mais par contre, les enseignants doivent du coup se former à la langue. Ça, ils ne le voient pas, ceux qui lisent, ils lisent ça en diagonale. Il faut savoir que ce n'est pas les conditions non plus, objectivement. L'ancien référentiel de français devait juste dire ce qu'on devait enseigner, c'est 21 pages, c'était les sommes de compétences pour ce genre, etc. 21 pages. Il y avait deux tableaux sur la table. Le nouveau référentiel de français langue ancienne fait 237 pages. Imaginez que vous êtes prof de primaire, vous n'enseignez pas que le français, et que vous devez avoir le français. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous taper tout, mais c'est quand même intéressant de voir ce que vous connaissez. Donc vous devez connaître au moins pour votre niveau d'enseignement. Vous avez ça pour le français, pour tous les cours que vous devez donner. Vous recevez ça X jours avant de rentrer. Voilà. C'est le meilleur moyen pour pas que ça marche. Et donc il y a un vrai travail de formation continue à faire auprès des enseignants, mais bon, c'est pas... C'est que la formation continue, donc j'ai pas besoin de...
Merci.
Oui.
Moi, j'étais intéressée par la suite de la réponse à la question de mon collègue. Là, j'ai mangé la pomme. Vous avez dit que vous poursuivriez plus tard.
La suite, c'est que je vous l'ai dit, en fait.
Ah, d'accord.
C'est en fait
l'histoire
que...
L'histoire de...
La question, c'est effectivement que, historiquement, on a laissé courir l'accord parce qu'il fallait écrire un jour, au XVIe siècle, il y a un poète qui n'avait rien d'autre chose à faire. C'est suffisamment romantique, sans doute, que... Pour écrire un poème sur l'accord du participe passé, donc les règles d'accord du participe passé ont d'abord été versifiées, et il a remarqué qu'il n'y avait pas d'accord dans cette circonstance-là, et d'une majorité de cas, il en a fait une totalité, il a dit donc on n'accorde pas. Donc c'est pour ça qu'on trouvait ça. Moi, ce que je vous dis, c'est quand je plaide, moi, pour l'invariabilité du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, ça règle la question, ce serait invariable devant ou derrière. Alors... Ça change. Alors voilà, ça change. Ça a un inconvénient. Ça a un inconvénient, c'est que ça fait sortir l'accord du participation en cas d'avoir de la règle générale. Mais c'est que si vous écoutez les gens, il y a un moment donné où, quand les règles sont à ce point retorses, illogiques, crétines, en fait, vous produisez des usages qui deviennent généralisés, mais qui ne sont pas forcément réglés par la logique générale. Si on avait dit depuis le début que ça s'accorde comme un adjectif, on n'en serait pas là. Le fait qu'on ait 42 règles pour l'accord du participe passé fait qu'on inverse. Le participe passé, les verbes pronominaux, est incompréhensible en logique. C'est vraiment de la perversion, quoi. Et on a vraiment l'impression qu'elles ont été faites, et à un moment donné, ça a été fait comme ça. En 1830, on s'est rendu compte, avant 1830, on s'est rendu compte que le français n'était pas partagé par tous les francophones de France. C'était surtout Paris et l'Île-de-France. Et donc, depuis 1833, il y a une loi qu'on appelle la loi Guizot qui a fait en sorte que l'enseignement devienne. Qu'on enseigne le français à marche forcée pour éradiquer les dialectes et que le français atteigne tout le monde. Et donc, ils ont nommé une cohorte, une armée d'instituteurs, et on a ciselé, coupé, atomisé les règles. Donc, l'idée, ce n'était pas de faire réfléchir, l'idée, c'était de faire obéir. Le principe de la règle, ça vous fait obéir. 19e siècle, on ne cherche pas à vous rendre libre et autonome, on veut que vous obéissiez aux règles. Le 21e siècle et même le 20e déjà, cherchait à rendre des enfants autonomes. Mais on a gardé les mêmes règles d'obéissance, donc on ne fait pas rendre quelqu'un autonome si on garde les mêmes outils d'apprentissage. Donc, il faut s'autoriser à pouvoir les modifier. Ma leçon d'aujourd'hui, c'est autorisez-vous à modifier les choses, parce que si ça a plus de sens par rapport à la situation d'apprentissage, changez le discours grammatical. Ne l'utilisez pas s'il faut, mais si vous estimez que vous en avez besoin, n'utilisez pas les termes de d'habitude, utilisez le moins de terminologie possible. Je vous ai montré que c'était possible. C'est un peu ça aussi que je voulais faire, vous montrer qu'il y a moyen de s'en sortir avec beaucoup moins et vraiment travailler sur le sens qu'on a envie d'exprimer. Une communication est réussie si l'intention que j'avais de dire quelque chose, elle est reconnue par l'interprétation de celui à qui je le transmets. Pas si j'ai dit COD, COI, CC, ACOP, ACOP. Voilà. Il faut savoir ce qu'on cherche. Et même si je suis, en tant que scientifique, je suis de ceux qui sont assez radicaux pour dire « j'aime pas dire des choses que je sais fausses », je sais très bien que parfois on doit pouvoir arranger ou ne pas dire un certain nombre de choses pour faire passer un message. En didactique, c'est ça. C'est ma limite, c'est plutôt ne pas dire, plutôt que de mentir. Et donc, s'arranger effectivement avec enfin, ceux qui disent des choses fausses et qui savent fausses, et parce que c'est utile, je ne vais pas juger. Pas trop. Voilà. Mais voilà. Mais...
Donc, je suppose qu'on vous adresse aussi, enfin, je ne sais pas qui, peut-être les gens de l'Académie française ou peut-être d'autres collègues grammairiens pourraient vous adresser la critique d'appauvrir le discours grammatical. Enfin, nous, par exemple, on travaille en ce moment à lire et écrire, on essaye de, d'approcher la, le, la notion de langage clair, mm-hmm. enfin, ou langage pour tous. On essaye de trouver une expression appropriée. Et on est aussi devant, face à ce genre de critiques qu'on nous adresse, c'est un appauvrissement du langage, donc peut-être aussi du sens. Et voilà, je ne sais pas si, comment vous réagissez alors à ce genre de critiques.
Alors, je ne vois pas en quoi ça enrichit la langue d'utiliser des concepts qui ne servent à rien et de former à des choses dont on se demande à quoi elles servent. Je crois que, encore une fois, le principe, c'est d'essayer de rendre compte de ce qui se passe et de décrire ce qui se passe. Ce n'est pas forcément de sauver un patrimoine qui n'est pas un patrimoine très adorable. Même si on a toujours l'impression de devoir aller pousser la statue du commandeur de l'accord du participe passé. Non, ce n'est pas un patrimoine très agréable et adorable. Donc, moi, ce que je pense, il faut savoir c'est quoi la richesse et c'est quoi la pauvreté. Souvent, quand on nous dit « vous simplifiez, donc c'est du nivellement par le bas », c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on a dit pour l'orthographe. Non, c'est de la rationalisation. Et encore une fois, pourquoi c'est de la rationalisation? Parce qu'en fait, la langue, ce n'est pas compliqué. Si la langue était à ce point alambiquée, je ne vais pas revenir à ce que je vous disais, les gens ne parleraient pas, mais si la langue était à ce point alambiquée, les gens ne pourraient pas s'approprier les éléments. C'est-à-dire que quand moi je vous parle en flux continu, vous n'êtes pas en train d'amener « ah là, il y a mis un sujet là, complément, c'est dans un sujet là, et machin », vous êtes en train d'avoir une grille de lecture et vous recevez tout ce que vous dites et vous interprétez. C'est comme ça tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 structures. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de structures de construction qui fait que quand je vous les envoie, vous les prenez. Et vous les appropriez et vous allez ranger ça dans votre case d'interprétation. Si c'était à ce point compliqué, ce ne serait pas possible. Vous seriez comme ça et moi je continue à parler en parlant vite, expressément, et je vous aurais perdu. Mais je pense que même en parlant vite, je n'utilise pas des mots compliqués, vous me comprenez. Et c'est ma langue, c'est la vôtre pour ceux qui ont cette capacité. Hein. Et si vous ne l'avez pas parce que ce n'est pas votre langue, c'est ça qu'on doit vous apprendre. En vous donnant les modèles de construction de phrases avant de vous dire il y a un sujet, un verbe, un complément. Et donc ça, oui, on me dit vous nivelez par le bas, et en fait non, parce qu'en fait la question du nivellement par le bas se fait par rapport à un pouvoir symbolique que les gens ont envie de garder. Les académiciens sont des gens qui ont un pouvoir, qui ne connaissent rien à l'orthographe. Ce n'est pas eux qui font un dictionnaire. Ils ont des agrégés en France pour faire le dictionnaire. Les académiciens sont juste là pour signer. Ils sont nuls. Ça. Alors c'est peut-être des gens bien, il y a des gens très bien dans les académiciens, mais ils sont nuls en grammaire. On ne peut pas être bon en tout. Mais il ne faut pas prétendre. Et donc, moi je suis nul en littérature, je ne prétends pas écrire des bouquins. Donc, qui me laisse mon métier. Et donc, ici, l'idée, c'est de se dire, si le pouvoir symbolique... Ceux qui peuvent changer, ce sont ceux qui savent. Or, il y a quelque chose qui est mal fait dans la nature humaine, c'est que si vous savez quelque chose, vous possédez un pouvoir. La question, c'est, est-ce que vous avez envie de descendre de votre piédestal pour le partager? Certains non, certains oui. Je vous laisse imaginer dans quelle partie je me trouve. Et c'est ça en fait qui est important, c'est qu'il y a un vrai pouvoir. Et la rationalisation de ce pouvoir, qui passe par une simplification, parce que rationaliser rend simple. Parce que si c'est rationalisé, c'est que c'est conforme à la raison, donc c'est compréhensible, donc c'est appropriable, donc c'est simple. C'est plus facile à prendre qu'une espèce de fatras où vous ne vous retrouvez plus de B, de Z. Devant, derrière, COD, CC, et vous ne trouvez plus, et puis voilà. Non, c'est un fatras qui ne sert à rien. Donc il y a moyen de moyenner, de rationaliser, sans qu'il y ait une perte. Si on rend les gens, si c'est rationalisé, si c'est plus simple, c'est plus approprié, j'ai la faiblesse de croire que ça rend les gens plus intelligents. Et ça élève plutôt que ça nivelle. Mais il faut accepter de partager le pouvoir. J'ai deux détestations. Le bécherel et la dictée. La dictée, même si elle a lieu sur les Champs-Élysées avec 250 000 personnes, qui est pour moi le symbole de l'ancien régime le plus catastrophique qui soit, parce que ça n'a rien une dictée. Vous faites juste des concours d'élitisme. Parce que vous ne savez jamais ce que vous corrigez quand vous faites ce que vous corrigez une dictée. Vous ne savez pas s'il connaît la règle, pas la règle, s'il la connaît, s'il ne sait pas l'appliquer, s'il n'est pas rentré dans le discours parce qu'il n'a pas compris ce qu'on lui racontait. Donc il y a plein de biais qui fait que vous ne savez pas ce que vous corrigez. Si vous voulez faire des exercices d'écriture, travaillez sur les productions d'aide, faites leur produire des textes. Au moins ils savent ce qu'ils veulent dire. Au moins ils savent ce qu'ils veulent dire et on peut pratiquer ça. C'est comme ça. Et on n'enrichit pas leur vocabulaire. Voilà. Dans les écoles ou dans n'importe quel cours de fleuve, vous leur rajoutez du vocabulaire, vu que c'est souvent thématique fonctionnelle. Fatalement, on leur rajoute plein de vocabulaire, donc ils vont en avoir du vocabulaire. On s'en fout de la dictée. Ancien régime.
Ça pas dû être en 1780.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.